Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Herdiwa et c'est l'heure de l'interview. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Gauthier. Bonjour.
Bonjour.
Gauthier, tu es ici pour nous parler de ta maison d'édition, The Uchikuchi, nous parler aussi de quelques parutions et de cette problématique liée aussi à cette crise qui monte au niveau mondial, que ce soit celui de l'énergie ou celui des conflits armés, voilà. Et donc, et les impacts que ça apporte justement sur cette économie du monde de la bande dessinée et de l'édition même, pourra dire peut-être. Alors, avant tout, on peut présenter aux auditeurs, ceux qui ne connaissent pas encore The Uchikuchi, qu'est-ce qu'est cette maison d'édition ?
Alors, The Uchikuchi, c'est une maison d'édition alternative de bande dessinée. On est monté en association, donc c'est-à-dire qu'il y a des bénévoles et un salarié que je suis. On existe alors officieusement depuis 2002, officiellement depuis 2004, parce qu'on a fait 2 ans de fanzine avant de se constituer en maison d'édition. En 2020, on déménage la maison d'édition dans le Diwa. Moi, j'y habitais déjà depuis quelques années. De 2020 à 2023, en fait, on a eu pignon sur rue à Die avec une galerie, ce qui a été une très belle expérience, mais que j'ai arrêté parce que être éditeur et être galeriste, l'un plus l'autre, c'était compliqué. Voilà, on est quand même on est une maison d'édition très indépendante, très underground, très alternative. Nos livres, en fait, notre sélection, elle se fait sur des choix artistiques, mais aussi politiques la plupart du temps. On fait une bande dessinée intello, mais accessible, en tout cas qui se penche vraiment sur des thématiques de sciences humaines, que ça soit l'histoire, que ça soit des adaptations littéraires, la philosophie, la politique, les études de genre. Voilà, on est un peu des rebelles de l'édition, on va dire, mais on essaye de faire les choses bien, pas forcément en grand, hein, c'est pas de la mégalomanie, mais voilà, on nous retrouve souvent dans les sélections, que ça soit à Angoulême ou ailleurs, mais en tout cas pour les prix importants de bande dessinée. Et puis on travaille avec des auteurs internationaux, donc que ça soit Mandy Ord ou Gregory McKay qui sont australiens, Victoria Lomasco qui est russe et qui vit maintenant en exil à Berlin parce qu'elle fait du reportage graphique et politique sur la Russie des années Poutine. On a quelques auteurs finlandais, Ville Kallio, Mattia Galberg. Voilà, et puis notamment aussi un auteur néerlandais, donc Marcel Reuters, qui est déjà venu exposer à Die et dont on a encore publié un livre cette année.
Alors, tu es ici aussi pour nous parler, faire part de ton inquiétude dans le monde de l'édition, du fait de ces conflits armés, comme je le disais en introduction, notamment avec l'Ukraine. Tu nous expliqueras en quoi cela impacte aussi cette édition. Et puis, on parlait aussi un peu d'histoire autour de du papier, notamment avec ce président américain qui a édicté des contraintes qui posent problème aussi pour cela. Alors, on peut parler avant tout de qu'est-ce qui se passe globalement dans le monde de l'édition, dont The Uchikuchi.
Alors, nous, on ne se porte pas bien en ce moment. On a connu un décrochage fin 2022 qu'on a réussi à peu près à endiguer courant 2023, mais qui nous a quand même amené à avoir des dettes, ce qui est une première dans l'histoire de notre maison d'édition. Les dettes, en fait, alors là, on essaye de redresser la barre, mais on voit bien que éponger toutes les dettes juste par notre bonne volonté, ça suffit pas. Donc, on a lancé une campagne de soutien. On n'est pas la première maison d'édition alternative de bande dessinée à lancer une campagne de soutien cette année. Il y a Ici Même qui nous a précédé. Donc Ici Même, pour situer un peu, en fait, c'est une maison d'édition nantaise. Et de renommée, parce qu'en fait, ils ont tout simplement eu le Fauve d'Or à Angoulême, donc la plus haute distinction, il y a quelques années de ça. Donc voilà, Ici Même, c'est vraiment une maison d'édition en fait, de renom. Et on voit bien en fait, que la difficulté économique n'est pas liée à la qualité des livres, hein, c'est pas ça. Le problème, en fait, il est un peu plus complexe que ça. Je ferai un parallèle avec l'agriculture. Mais c'est parce qu'en fait, en agriculture, la façon dont on nourrit en fait, nos corps est très identifiée, cette problématique-là, avec l'agro-industrie. Le fait que il y a des schémas industriels d'agriculture qui détruisent les sols, qui nous nourrissent mal en fait et qui sont pas pérennes. Et à côté de ça, donc il y a un regain de vitalité autour de la paysannerie et puis en fait vraiment une réflexion autour de l'alimentation. Et même, on voit à présent des sécurités sociales alimentaires. Et donc là, j'étendrai ça au champ de la culture. Ou peut-être qu'une société sociale culturelle serait une question à poser. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le champ de l'édition, on a des gros acteurs de l'édition, des éditeurs industriels qui surproduisent, qui en fait vont faire leur beurre sur un bouquin qui va marcher et envoie au pilon des quantités de livres, qui envahissent les librairies. Donc un libraire aujourd'hui, même avec la meilleure volonté du monde, en fait, a du mal à endiguer ce flux en fait, qui lui arrive. Et puis, donc ça, c'est vraiment, on va dire, c'est les agro-industriels de l'édition, quoi. Et puis, à côté de ça, il y a des éditeurs paysans, on va dire, dont on fait partie. On produit peu. On a une capacité de résilience qui est quand même assez marquée. Donc moi, j'ai bon espoir qu'on survive à cette crise. Mais l'heure est quand même grave. Je minimise pas du tout nos soucis. Mais voilà, on est capable. Comme j'ai tendance à me définir, je suis un chercheur de marge, en fait. C'est-à-dire que je vais toujours chercher les marges qui n'auront pas été exploitées par des industriels. Il faut être malin et il faut toujours trouver une façon de faire que les autres n'ont pas fait. Donc c'est pas dans la communication ou quoi. C'est vraiment, en fait, dans la façon de procéder. Et puis, en fait, en général, en revenant à des trucs très, très simples, comme en agriculture, ben en fait, ça marche. Donc, nous, on est victimes de cette crise-là. La chose étant qu'il va falloir, en parler publiquement, et c'est pour ça que je suis aussi à cette antenne, mais il va falloir en parler publiquement de la façon dont on nourrit nos esprits. Parce que, dans un mouvement parallèle, moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a un mot qui a disparu en fait, des politiques publiques du livre, en tout cas, il n'y a pas complètement disparu, mais en très très forte régression, c'est bibliodiversité. Qu'est-ce que c'est que la bibliodiversité ? C'est le fait de présenter des œuvres plurielles dans les librairies, dans les médiathèques et tout. Il y avait quand même beaucoup, beaucoup d'aides, notamment aux libraires, dans le temps, qui étaient conditionnées à une bibliodiversité. Et en fait, ce facteur-là se restreint. Et moi, ça m'inquiète, en fait. Et si on le ramène encore à nouveau au domaine de l'agriculture, c'est comme si tout d'un coup, on voyait des champs où il n'y avait que de la monoculture, il n'y avait plus de fauvettes, il n'y avait plus de coléoptères et tout ça.
Tu citais Angoulême, vous avez participé à ce festival, j'imagine. Est-ce que c'est un moment aussi d'échange sur cette inquiétude et qui est partagée peut-être ?
Angoulême, en fait, c'est le moment où se réunit notre syndicat, le syndicat des éditeurs alternatifs, le SEA. Effectivement, le SEA, c'est une structure qui permet aussi de porter ce genre d'interrogation. Notamment, en fait, on a des commissions aussi diverses que sur l'écologie du livre ou, par exemple, tout ce qui est bon comportement à avoir par rapport à tout ce qui est agressions sexistes et sexuelles, des choses comme ça, au sein de l'entreprise. Donc on réfléchit sur des questions comme ça. Après, nous sommes des éditeurs alternatifs. Donc en fait, clairement, et notamment au niveau des décisions ministérielles, on ne fait pas la pluie et le beau temps, loin s'en faut, quoi. Et puis c'est un syndicat qui est jeune et qui réunit avant tout des éditeurs liés au monde de l'image, que ce soit la jeunesse ou la bande dessinée. Et Angoulême, du coup, pour... moi déjà j'ai fait mes études là-bas. Donc c'est une longue histoire d'amour-haine envers cette ville et moi. Maintenant je me retrouve à y passer à peu près une semaine par an. Contraint et forcé, alors oui, parce que c'est loin et c'est fin janvier, donc c'est pas tout le temps agréable d'aller au festival, mais j'y retrouve les copains. C'est un festival qui a quand même la faculté de faire venir des auteurs de loin, donc des fois, ça me permet de voir, par exemple, mon ami Mazen Kerbash, qui maintenant qui vit à Berlin, mais qui est libanais, qui a longtemps vécu à Beyrouth, des choses comme ça. Et puis, en fait... Il faut voir qu'économiquement, pour les petits éditeurs comme nous, c'est un festival qui se fait à perte. Mais il y a la notoriété. C'est-à-dire que là, par exemple, cette année, l'anthologie d'Imagex qu'on a publiée l'an dernier, donc Imagex qui était un auteur des années 80, s'est retrouvée dans la sélection patrimoine à Angoulême. Et voilà. Et en fait, moi, voir Imagex... en lice pour un prix à Angoulême alors qu'il avait arrêté la bande dessinée depuis presque 40 ans et que c'est quelqu'un que j'adore et que j'admire depuis longtemps, ça m'a... Voilà, c'est aussi pour ces raisons-là que je fais ce métier et de cette façon-là.
En introduction, enfin en amont de cette émission, tu m'as parlé de cette problématique liée justement avec la guerre en Ukraine, qui impacte donc ce secteur de l'édition, et notamment par l'énergie, le coût de l'énergie. Alors comment se répercute cette guerre justement pour une entreprise comme Uchikuchi ou d'autres comme ici même ?
Alors, cette histoire de guerre en Ukraine, il ne faut pas la prendre isolément, mais je vais commencer par dire quelque chose qui est un impensé souvent pour les lecteurs. C'est que l'édition, le monde de l'édition, fabriquer un livre, en fait, c'est extrêmement énergivore. Que ça démarre, en fait, avec la pâte à papier, jusqu'à la qualité de l'encre, le transport et puis l'énergie qu'il faut pour faire tourner en fait une imprimerie. Nous, on a fait le choix d'imprimer en France ou en Lettonie. Alors, c'est pas pour délocaliser, c'est que l'imprimeur letton avec lequel on travaille est vraiment un imprimeur de qualité. Qu'il y a des fabrications en fait qu'on ne peut faire que chez lui. J'ai encore reçu en fait ce qu'on appelle une maquette en blanc c'est-à-dire un livre non imprimé mais juste un prototype pour une fabrication très expérimentale hier. Et alors du coup j'ai parlé de la Lettonie directement, là on comprend la proximité en fait avec la Russie. J'ai parlé de coûts énergétiques pour l'impression. Bon, on voit tout de suite ce que ça peut représenter. Nous déjà, en fait, The Uchikuchi, on fait le choix de mettre en corrélation le choix de l'imprimeur et le choix du papier qu'on va utiliser. C'est-à-dire qu'on calcule à chaque fois, théoriquement, le moins de kilomètres possible entre l'usine de fabrication du papier et l'imprimerie. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand on imprime un livre, c'est entre un tiers et la moitié du papier qui ne va pas se retrouver dans le livre final. Entre les feuilles de passe, ce qui est coupé aussi, c'est entre un tiers et la moitié du papier. Et ce papier-là, il faut le transporter. Donc en fait, le calcul qu'on fait, c'est que si on est au plus près de l'usine en fait, de fabrication du papier, on réduit déjà la charge écologique du livre. Bien sûr, le premier calcul à faire, c'est aussi d'adapter le tirage, ce que ne font pas les éditeurs industriels. On n'est pas exempt de reproches ni d'erreurs là-dessus. Mais tu vois, là, j'ai rapporté sine qua non une bonne rentrée et Castagne. Castagne et Sine qua non, en fait, ont été imprimés à 800 exemplaires. Une bonne rentrée à 900 exemplaires. Donc, ce n'est pas non plus des tirages bouleversants, pour l'équilibre écologique en tout cas. Et j'irai même plus loin, Sine qua non, en fait, le papier de couverture, donc c'est un papier de création qui est fabriqué en Italie et que j'ai sérigraphié, moi, dans le Diwa, avant de l'envoyer chez l'imprimeur en France. Voilà, donc on essaye de faire au maximum du local. Néanmoins, en fait, donc l'énergie utilisée par l'imprimerie a un coût qui a explosé, que nous, on a... Enfin, en tout cas, si on l'avait répercuté sur les prix de vente publique du livre, ça aurait fait des livres à 45-50 euros. Parce que dans le même temps où les coûts explosent, bah, y a une diminution des budgets publics sur les aides allouées à la culture et donc aux livres en ce qui nous concerne aujourd'hui. Donc tout ça, ça fait que nos marges qui étaient déjà restreintes, eh ben, elles diminuent. Et puis, bon, moi, je suis le seul salarié de la maison d'édition. Je veux dire, s'il fallait que je trouve un boulot à côté pour ne pas dépendre financièrement de la maison d'édition, là, dans ce cas-là, je pense qu'au bout de 6 mois, on met LHP ou alors il faut me fournir la drogue pour que je tienne sans dormir, quoi. Mais j'ai un gamin en bas âge, j'ai envie de passer des bons moments avec lui aussi, quoi. Donc, ouais, tout ça pèse lourd dans l'activité d'un petit acteur culturel comme nous, quoi.
Alors, on revient aussi sur un autre aspect, ce papier, donc, et puis sa fabrication. Alors, tu me parlais aussi de Donald Trump, qui a apparemment édicté une loi.
Alors, c'est une vieille histoire, ça. Ce qui s'est passé, c'est, je crois que c'était avant le Covid, Donald Trump, en fait, a dénoncé un marché qu'il y avait entre la Suède et les États-Unis pour l'approvisionnement en bois des États-Unis. Donc, quelque part, écologiquement, on peut se dire « Ah tiens, les États-Unis vont se fournir en bois par eux-mêmes, c'est pas plus mal. On va éviter d'avoir des grumes de bois qui vont traverser l'océan. » Néanmoins, en fait, l'économie en fait, du papier, ça a eu un effet domino qui a mis un certain temps en fait, à toucher le papier. Mais en tout cas, enfin, voilà, sur toute la chaîne du bois, il y a eu une flambée des prix. Qui a commencé à se sentir en Europe fin 2020, je crois. Et puis, quelques années plus tard, quelques même mois, on peut dire plus tard, ça s'est répercuté sur les cours du papier. En plus de ça, il faut savoir que nous, on a un problème avec le papier. C'est qu'il y a une énorme opacité entretenue par les papetiers. C'est très compliqué, en fait, de savoir les conditions de fabrication du papier. Même s'il y a des labels, genre PEFC et tout ça, c'est vraiment bidon. Moi, il y a quelques années de ça, je vivais en Creuse. Il y avait un groupe qui avait un petit canard écolo qui en fait ont envoyé le relevé cadastre d'un parking de supermarché. Ils ont envoyé le chèque avec pour dire ah voilà, ça c'est une zone PEFC. Et en fait, leur truc a été... Il n'y a eu aucune vérification. Ils ont eu le bon comme quoi. Ouais, c'était une zone PEFC, pas de souci, quoi. Il y a un arbre coton-tige et 15 000 bagnoles sur le parking, mais c'est pas grave. Donc, et c'est très compliqué, en fait, pour nous d'être juste écologiquement. Par exemple, on travaille avec un autre papier, mais lui qui est de fabrication européenne. C'est un papier print speed qui est fabriqué au Portugal avec des eucalyptus qui ont été plantés au 19e siècle parce qu'il y avait un problème de marécage qu'il fallait assécher. Donc ça, très bien, ça a asséché les marécages, sauf que maintenant on a le réchauffement climatique et ça fait des feux de forêt. Le souci, c'est que donc ils ont coupé les eucalyptus, ils ont commencé à couper les eucalyptus pour en faire de la pâte à papier. Ça fait de la très bonne pâte à papier, il n'y a pas de souci. Le souci, c'est que ce qui était une opportunité a été interprété par ce monde capitaliste dans lequel nous vivons comme une rente. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On replante des eucalyptus. Et puis, on les fait pousser pour les transformer en pâte à papier. On fait de la monoculture d'eucalyptus, c'est ça. Donc, ce qui a une valeur écologique un temps, en fait, est à remettre en question assez rapidement, finalement. Donc, voilà, c'est... On fait le maximum. Moi, je maintiens ce truc-là. On fait le maximum d'efforts possibles. Et c'est très, très, très compliqué d'être parfaitement juste écologiquement. Et je milite dans mon métier aussi pour qu'il y ait plus de transparence sur les fournisseurs, sur les process, et puis que aussi le grand public soit informé des enjeux en fait écologiques de la culture. Bah, il y a le développement d'Amazon. Donc là, je parlais des libraires. Allez chez vos libraires. Et libraires, sachez que vous avez un rôle de prescripteur. N'abandonnez pas la partie. Soutenez-nous. On est codépendants. C'est vous les garants de la biodiversité, autant que nous, en fait. Mais tu vois, là, il y a le développement d'Amazon qui fait du mal, en fait, aux librairies indépendantes, notamment.
Est-ce qu'il y a eu, de votre part, les éditeurs alternatifs, une analyse du territoire sur des fabricants de papier aussi, en France notamment? Est-ce qu'il y a une possibilité ou alors c'est hors de prix?
Alors, en France, oui, c'est hors de prix par certains aspects. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a plutôt de la recherche qui se développe en France avec des entreprises qui font de la pâte à papier à partir de minéraux. Donc, il n'y a plus d'arbres dedans. Bon, après, ce n'est pas complètement clean écologiquement parce qu'il y a quand même des polymères et tout ça pour faire tenir la poudre minérale ensemble. En tout cas, tu vois, je parlais de la couverture de Sine Qua Non, en fait, qui est faite sur papier Fedrigoni. Fedrigoni, en fait, a été racheté il y a peu, mais c'est encore le cas aujourd'hui. C'est quand même des bois qui sont gérés initialement par la famille Fedrigoni, mais en tout cas par le fabricant lui-même. Donc, c'est des bois qui sont en Italie essentiellement. C'est un papier qui coûte plus cher. Donc, à nouveau, tu vois, bon, bah, nous, ça nous mange un peu les marges, ou alors on va mettre le livre 2 euros plus cher que si c'était un autre éditeur qui le faisait. Mais c'est un choix aussi, c'est un engagement qu'on fait, quoi. Et puis, leurs papiers, ils sont d'une qualité. C'est ça aussi, c'est que tu payes pour la qualité du papier. Et c'est ce dont tu as envie, en fait, quand tu as un livre entre les mains, quoi.
Et puis, il y a aussi le savoir-faire de l'imprimeur, c'est-à-dire l'impression des pages, mais aussi la confection et le façonnage des livres. Ça, c'est un savoir-faire qui doit exister en France, mais je pense qu'il y a un coût certainement très différent de celui de votre imprimeur en Lettonie.
Alors, le coût est plus cher, ouais, effectivement. Mais ça, après, c'est toute la logique du circuit court, quoi. C'est-à-dire que si tu mets un peu plus pour que ça soit proche de chez toi, quelque part, au bout d'un moment, ça va aussi rejaillir sur ton économie à toi. Après, le problème, en fait, c'est les logiques qui président aux imprimeries en France. Comme je te disais, nous, on imprime quand même beaucoup en France. J'ai essayé plusieurs imprimeries. Je vais pas toutes les mêmes dans le même sac. Je vais être très clair là-dessus. Mais ce que j'ai vu, c'est souvent, en fait, on a des patrons d'imprimerie qui disent on va faire le devis, on va valider ce devis et tout ça, sans se poser la question de la faisabilité. Et puis, ils font ça pour une question de prestige. Finalement, en fait, ils n'ont pas nécessairement les outils pour le faire. Donc, nous, ça nous met dedans, quoi. Et puis, en plus de ça, à l'autre bout, en fait, ils ne veulent pas qu'on vienne au calage. Alors, moi, comme je suis très, très, très maniaque, ayant une formation de graveur et de sérigraphe par ailleurs, je suis un peu maniaque avec les fabrications de livres. Donc souvent, je demande d'être présent au calage. Et c'est pour ça aussi que j'imprime en France. C'est pour ne pas avoir à prendre avion et puis partir à l'autre bout du monde pour surveiller un calage. Mais je descends en salle des machines, je parle avec les conducteurs de machines et tout ça. Et puis, là c'est théoriquement, hein, tu vois. Et puis, en fait, on ajuste la machine et tout le monde est content. Et puis, en fait, en général, moi, je crois que les conducteurs de machines, ils sont contents parce que aussi, il y a quelqu'un qui valorise leur métier. Ils n'ont pas appris ça en vain, en fait. Voilà. Mais le truc, c'est que souvent, les patrons d'entreprise d'imprimerie veulent pas qu'on vienne au calage. Ils estiment ça comme de la perte de temps, d'argent et tout ça. Les conducteurs de machines, bah, en fait, la plupart du temps, ils se retrouvent avec des prospectus pour le supermarché du coin à imprimer. J'exagère un peu en disant ça. En disant ça, je caricature, mais c'est à dessein. Mais en tout cas, ils n'ont pas des livres de création à imprimer. Et puis, ils se retrouvent ça, et nous, on passe dans le tout venant, quoi. Donc, en fait, il n'y a personne qui est heureux, au final, avec ça. Donc, moi, je suis OK pour payer une espèce de plus-value sociale, mais il faut que ça fasse sens aussi. Et là, aujourd'hui, c'est la guerre pour imprimer en France, pour trouver un bon imprimeur. C'est compliqué, quoi.
Ça c'est un constat de ta part, mais est-ce que justement dans la société des éditeurs, le syndicat des éditeurs alternatifs, est-ce que il y a une vision globale sur cet aspect-là aussi ?
C'est un constat partagé. C'est un constat partagé. En fait, on a une commission sur les imprimeurs. C'est un constat partagé. Et après, nous, en fait, donc anciennement, on travaillait avec une imprimerie qui était en Vendée. Un peu du jour au lendemain, mais je crois que c'est à la faveur de ce qui s'est passé avec le Covid aussi, la direction en fait a changé d'optique et a un peu demandé à leurs ouvriers de travailler dans le sens vous en fichez de la qualité, vous prenez toutes les commandes et tout ça, ce qui a mené en fait à un gros clash entre eux et nous, puisque il y a eu des projets qui ont été extrêmement compliqués. Et ce qui a amené en fait à la démission de leur commercial, qui a monté en fait son entreprise après, pour lui maintenir en fait une impression au maximum en France et mettre en contact éditeurs et imprimeurs. Et alors figure-toi que donc cette société, elle s'appelle Archétype Édition, travaille aujourd'hui avec deux sociétés qui sont basées dans le Diwa. Donc The Uchikuchi et aussi Archives de la Zone Mondiale.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du Diwa.
107.5
101.7
FM.
Je reviens un peu justement sur ce prix unique du livre qui avait été décidé par Jack Lang. Bien loin est cette période aujourd'hui.
Jack Lang est encore en vie.
Non, je parle de ce qu'il a
fait,
de ce qu'il a accompli.
Mais en fait, c'est Jack Lang est encore en vie. Donc, sa loi est encore en vie. Et moi, vu les dynamiques actuelles, j'ai le sentiment et la peur à la fois que, en fait, le jour où il sera plus là, le motif du crime est tout trouvé. Hein, c'est la concurrence, la sacro-sainte concurrence. Mais tant qu'il est en vie... on n'y touchera pas. Et puis, par contre, ça sera la fin d'une époque après. Ça me fait vraiment peur. Y a des contraintes hein, pour nous, même pour nous, en tant que petits éditeurs, sur le prix unique du livre. Par exemple, quand on a des bouquins qui marchent plus bien, qu'on veut solder, eh ben, en fait, on ne veut pas les pilonner, mais on est trop petit en fait, pour intéresser un soldeur, parce qu'ils prennent des quantités à partir de 2000 exemplaires, mais comme tu as vu, mes tirages, ils sont en dessous de 2000 exemplaires. Donc, quand il faut solder le reliquat d'un tirage, c'est vraiment peanuts, quoi. Donc, en fait, sur la solde, il y a des soucis. Il y a des soucis sur les défraîchis, les livres qui reviennent abîmés. Tu vois, là, par exemple, j'ai ramené un exemplaire de Castagne. Je vois qu'il est un peu souffert sur la couverture. Bon, voilà. Mais donc, ces trucs-là, c'est qu'est-ce qu'on en fait, tu vois, par rapport à... Bon, il y a une zone de gris. Nous, on est petits. Si on pratique un peu des espèces d'arrondissements d'angle par rapport à la loi sur le prix unique du livre, personne ne nous en voudra. Ça concerne quelques dizaines d'exemplaires tout au plus. Mais y a quand même des contraintes. Par contre, pour les éditeurs industriels, le jour où ils remportent cette bataille-là, alors là, je peux te dire que ils vont mettre la pression sur les libraires indépendants pour racheter, pour que ça devienne des points de vente pour eux. Et puis comme ça, tu vois, à nouveau, on est sur une histoire de marge qui va rentrer toujours dans les mêmes poches. Puis nous, on pourra continuer à crever comme on le fait, quoi.
Je me souviens aussi. De cette qualité de papier autour de la Deuxième Guerre, où on peut se rendre compte de la qualité beaucoup moindre du papier, qui était très jaune, très fin, très cassant même. Est-ce que on peut envisager un retour de cette mauvaise qualité de papier dans l'édition ? Et j'espère que vous n'y tomberez pas, mais est-ce que malgré tout, vous seriez obligé peut-être pour perpétrer aussi la création graphique, malgré tout, de procéder de cette manière ?
Alors, la qualité des grosses références de papier d'édition a déjà baissé. Très clairement là-dessus, et moi j'y peux rien, enfin, je peux pas lutter contre ça. Enfin, c'est Voilà, je peux faire au mieux, mais très clairement, en fait, il y a une qualité qui a baissé. Là où il y a un enjeu pour moi, c'est sur la qualité des papiers recyclés, donc qui vont un peu faire encore baisser la qualité par rapport au papier d'édition qu'on utilise. Mais au moins, en fait, si le papier qui est recyclé en France peut servir à faire du papier recyclé en France plutôt que du cartonnage pour Amazon, et que en fait on met de l'argent là-dedans pour chercher en fait comment on fait de la qualité avec du papier recyclé, ça serait pour moi, ça serait vraiment une solution du futur. Et puis, une fois de plus, bah, il faut moins publier, quoi. Il faut moins publier. Il faut que les gros éditeurs arrêtent de publier à tout bout de champ. Hop, là, il y a le moindre fait divers, on en fait un bouquin, des conneries comme ça, quoi. Donc, et nous-mêmes, à partir de 2025, là, ces dernières années, on a fait entre 6 et 10 livres par an. Et à partir de 2025, en fait, c'est un contrat qu'on a passé en interne. On n'est pas engagé par ailleurs auprès de qui que ce soit. C'est juste nous, on s'est dit, on va faire 5 titres par an. Voilà. Et quoi qu'il arrive. Donc, il y aura de la file d'attente pour les auteurs, j'en suis désolé. Mais c'est les conditions pérennes de l'édition pour un petit éditeur aujourd'hui, en prenant la donne économique, sociale et écologique.
Globalement, est-ce que vous connaissez ou avez estimé le nombre de lecteurs de cette presse, de ces types d'éditions alternatives ?
C'est très variable parce que, tu vois, il y a des livres qu'on va publier à vraiment quelques centaines d'exemplaires et puis il y a des livres en fait, qui vont toucher plusieurs milliers de personnes. Bah, c'est le cas avec les livres de Victoria Lomasco, par exemple, donc cette autrice russe qui est dissidente, qui fait du reportage graphique et politique, qui a eu un prix à Angoulême l'an dernier. Bon, une fois que j'ai dit tout ça, on comprend qu'elle intéresse plus de monde que d'autres auteurs de notre catalogue. Et après, en plus de ça, il y a vraiment des choses que tu ne maîtrises pas. L'un de mes livres favoris du catalogue, Sur les toits de l'Australienne Mandy Ord, c'est moins de 100 ventes en librairie, donc je parle de France, Belgique, Suisse réunies, et puis depuis 2021, donc tu vois que c'est peu, quoi. Mandy, en fait, elle n'est jamais venue signer son livre sur les festivals, vu qu'elle vit à Melbourne, en Australie. Mais en festival, c'est comme il y a une médiation directe, et c'est moi qui en parle, avec l'amour que j'ai pour ce bouquin et tout ça, c'est l'une des meilleures ventes en festival, quoi. Donc finalement, en fait, on arrive à ces quelques centaines d'exemplaires, mais tout ça pour dire que tu peux pas transposer, c'est pas toujours le même ensemble de lecteurs qui va s'intéresser à un livre ou à un autre.
Quelle est la position du ministère de la Culture face à ces difficultés ? Est-ce qu'il y a des prises de contact avec certains services, peut-être pour soutenir ou essayer de trouver des solutions ?
En fait, tu sais, il y a quelques temps de ça, ils ont dit « Ah ouais, bah on va faire une phase expérimentale de publicité pour les livres à la télé. » Et puis, il y a une réaction, alors même pas de nous, hein, en tant que syndicat des éditeurs alternatifs, mais du SNE, Syndicat National de l'Édition, qui représente tous les gros groupes éditoriaux, quoi, qui ont dit « Ouh là là, mais attention, cette loi-là, cette possibilité-là, ça va favoriser, en fait... la promotion de livres, qui en ont pas besoin déjà.
On parle de la publicité à la télévision.
À la télé, ouais. Et ils ont dit, mais si, on a fait une étude on a eu une étude et puis on a décidé ça en fonction des résultats de l'étude faite auprès des éditeurs. Alors, la question a circulé au sein du syndicat des éditeurs alternatifs. Qui a été questionné pour cette étude ? Personne. Personne. Je crois que la réponse, elle est à peu près la même au sein du SNE. Voilà. Donc, en fait, je pense qu'on est dans une non-communication avec le ministère de la Culture. De toute façon, on a bien vu que c'était pas un centre d'intérêt pour nos gouvernements successifs, là. Et est-ce qu'il y en aura encore un dans quelques années ? Tu vois, c'est comme la loi... Enfin, bon, non, c'est pas tout à fait comme la loi Langue, mais... je suis assez pessimiste, en fait. Et puis, tu vois, là, on approche des élections européennes et tout ça. Et puis, on sent qu'il y a une percée de l'extrême droite. On va encore nous bassiner avec cette histoire d'identité française. Mais enfin, en fait, si je suis pas du tout patriote, hein, je m'en fous. Je suis plutôt très libertaire et contre les frontières. Mais s'il y avait un truc qui me rendait à peu près fier de mon pays, c'est qu'il y avait vraiment une vision communément partagée de la culture. Qui a envie de défendre en fait un pays qui a plus de vision communément partagée de la culture? Parce que là, en fait, tout ce qu'on nous propose quand on dit ça, enfin en tout cas quand des politiques parlent de ça, c'est une vision passéiste de c'était mieux avant et tout ça. Non, non, c'est juste un truc qu'on fait plus. On est capable de le faire. On est capable de le faire, on est capable d'aller de l'avant, c'est super simple. On le fait, nous, à notre échelle.
Une dernière question, parce que le temps passe, et après on abordera aussi cet aspect du crowdfunding. Donc, est-ce que le livre de bande dessinée dans la collection que vous proposez ne deviendrait-il pas peut-être un objet de luxe ? Et j'en parlais encore récemment lors d'une interview sur la notion du luxe qui maintient en quelque sorte un certain savoir-faire de fabrication et qui, de temps en temps, sont sollicités pour produire des choses qu'on ne trouve plus ou beaucoup moins, plus rarement peut-être.
C'est moi, c'est un truc qui m'interpelle au quotidien. Alors c'est vrai que quand tu fais un livre qui coûte entre 20 et 30 euros, ce qui est le cas de la plupart de nos livres, mais tu vois, à l'automne dernier, on a sorti AKBCDR de Gérald Leclin, qui était à 5 euros. Donc on est capable aussi de faire des trucs qui sont bon marché. Mais de toute façon, même mettre 5 euros dans un bouquin, en fait, si t'as pas de sous et que t'es pas habitué à claquer les sous que t'as pas dans la culture, c'est un gros effort, quoi. Donc, ouais, moi j'ai conscience aussi qu'on fait des livres pour des gens qui peuvent se les payer. Comme je disais tout à l'heure, on pilonne pas, on vend nos défraîchis à prix cassé, ce qui permet aussi à des gens qui ont moins les moyens de se payer du livre de s'en acheter. Et après, je vois. Tu vois, pendant 3 ans, en fait, avec la galerie, j'étais en contact direct avec nos lecteurs. Il y a quand même une partie non négligeable de nos lecteurs, ben, qui roulent pas sur l'or, en fait, mais qui ont faim de culture. Et cette faim de culture, en fait, ben, ils vont mettre le petit budget qu'ils peuvent allouer dedans. Et ils le feront, en fait, et ils seront réguliers là-dessus. Et d'ailleurs, je leur en suis très, très reconnaissant.
Il y a donc ce crowdfunding lancé sur le site de Hello Asso avec l'intitulé « Soutenez votre petit éditeur ».
Ouais, sur le site Hello Asso, la campagne Zoo Chikuchi, soutenez votre petit éditeur. Et bah, on propose en fait des lots avec, enfin, de livres, de gravures imprimées par Diogo Benedetti, qui est un bénévole de l'asso, qui a exposé à la galerie l'an dernier. Et puis le clou du spectacle, c'est un portfolio en sérigraphie de Nicolas Prel, qui est un des auteurs phares de notre catalogue, et sérigraphie qui va être sérigraphiée dans le Diwa, donc circuit court à nouveau, quoi.
Est-ce que tu proposerais prochainement un rendez-vous avec le public pour mettre en avant aussi ces difficultés à échanger aussi ou peut-être souscrire à ce recours de Hello Asso?
Alors bien sûr, plus on est de fous, plus on rit. Plus, même si c'est pour mettre 5 euros, si c'est pour mettre 15 euros, si c'est pour mettre 20 euros, soutenez-nous en fait, et plus on sera nombreux, plus longtemps vivra la petite édition. C'est vraiment important. Voilà, il y a cette campagne, cette campagne Hello Asso qui existe. Après, moi, j'ai envie qu'on survive. Hein. Et du coup, le prochain rendez-vous public que je donne donc à nos lecteurs du Diwa, ça sera à la médiathèque de Di. La médiathèque d'Iwa Vercors. Donc, il y en a deux. Il y en a une qui sera le 12 juin Où on inaugure en fait l'exposition des travaux des élèves de l'atelier BD de l'ESCDD, qui est mené en fait en partenariat avec The Uchikuchi, la médiathèque et l'ESCDD. Ensuite de ça, il y a donc nos comparses de DIY qui récupèrent en fait cette salle, la galerie de la médiathèque, parce que ça va être le moment de partir en livre et de leur festival. Ah, j'espère que j'ai bien prononcé. Et ensuite, c'est à nouveau une expo de Uchikuchi sur ce livre que je t'ai ramené, Une bonne rentrée de Margot Soula, qui est officiellement pas encore sorti, mais que vous pouvez déjà trouver et chez Mosaïque et à l'entrepôt rue Buffardel, parce que nos anciens voisins nous soutiennent, et ça, merci à eux. Et du coup, Margot Soula, jeune autrice de BD, c'est son premier bouquin, superbe plasticienne, elle est fantastique, c'est une peintre hors pair. Et voilà, qui va nous montrer en fait des pièces qui seront extraites et adaptées de son livre Une bonne rentrée. Et Une bonne rentrée, donc, ça parle d'un adolescent qui arrive en sixième avec son frère. Il y a une relation conflictuelle pour des raisons que les lecteurs et les lectrices découvriront. Et en fait, grosso modo, qui est le nom de cet adolescent, ce qui va très bien pour un ado, découvre son homosexualité. Voilà. Et donc, hors d'Iwa, on fait une petite tournée fin. Donc, l'expo de Margot, ça sera le 2 juillet. Il y aura toute l'équipe de Zuchikuchi qui sera là, ou à peu près toute l'équipe. Juste avant ça, en fait, on fait une petite tournée avec Margot et Emily Östergren, qui avaient publié Flore et Faune l'an dernier, donc sur Scott, qui est un préado avec une identité de genre qui est trouble. Et les gens qui nous invitent ont eu la bonne idée de faire des tables rondes sur la question de l'adolescence queer en bande dessinée. Voilà. Et là, il y a deux autrices, Emily Östergren et Margot Soula, qui sont prêtes à en parler avec le talent qu'on leur connaît.
Il y a un site internet, Uchikuchi, pour connaître les éditions et voilà. Aussi l'actualité.
Ouais, www.zuchikuchi.com. On peut nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Un bon moyen aussi de savoir ce qu'on fait, c'est de se raccorder à la newsletter. Ça, je crois qu'il y a un petit bouton sur le site. Alors notre site, il est un peu vieillot. Faut y aller depuis un ordinateur, pas un smartphone, mais. Inch'Allah, un jour, ça va changer. Mais sinon, il suffit d'envoyer un mail à contact@thehuchikuchi.com en disant « Coucou, je vais être raccordé à la newsletter ». Et je crois qu'aussi sur la campagne Hello Asso, il y a possibilité de souscrire à la newsletter. Voilà, on en envoie une par mois, c'est pas l'assassinat.
Nous nous quittons avec un morceau de musique de ton choix.
Ouais, c'est une avant-première pour le public du Diwa. En ce moment, à Bruxelles, il y a une série d'expositions de Martès Bathory, donc qui était venu exposer à la galerie aussi. Ça s'appelle Invasion Porcine. Il y a, je crois qu'il y a même une dizaine d'expos. Et en fait, en parallèle à ça, ils ont fait avec son comparse Futuro Pelo la première de leur première opéra porcin. Ich bin ein Utopist. Donc que The Uchikuchi va publier en livre-disque l'an prochain, là, enfin si on survit, hein, mais là on est en train d'essayer de réunir les fonds pour que ce soit possible. Et du coup, entre harangue porcino-politique de notre camarade Martès, il y a des reprises de chansons, en fait, soit des chansons... révolutionnaires, soit des chansons de guerre. Et là, ce qu'on va écouter, c'est une magnifique reprise d'un chant horrible. C'est « Tiens, voilà du boudin au vocodeur et en électro ».
Gauthier, merci d'être venu sur Air du Bois pour nous parler donc de ces difficultés dans le monde de l'édition alternative, dans The Uchikuchi. Et je te souhaite malgré tout une bonne soirée.
Eh ben, merci Yves, merci de ton accueil et puis merci à tous nos lecteurs et en particulier nos lecteurs du Diwa qui nous soutiennent depuis de nombreuses années. À très vite.
Au revoir.